Excusez ce léger contretemps. Je suis à la recherche de mon Nouveau Testament grec, et ceci est gravissime, parce que je ne peux rien faire sans. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent seulement aujourd'hui. Donc, je tiens d'abord à signaler, comme cela m'avait déjà été demandé la semaine dernière, que la prochaine séance, nous devons la sauter, parce que je vais entretenir un certain auditoire à Rome sur la réévaluation historique du quatrième évangile. Donc nous nous retrouverons seulement le 7 novembre, après les vacances de la Toussaint. Je disais justement à la personne qui nous rejoint ce soir que je ne peux évidemment pas reprendre ce que je dis dans « Selon Jean » en trois volumes, une traduction et une interprétation. Ce livre doit être disponible en tout cas en deux exemplaires à la bibliothèque du centre. Il est dans la travée de notre cours et puis il se trouve aussi éventuellement disponible à la procure. Il a été édité une première fois en 1997 et il a été réédité en 2005. Donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient des compléments d'information par rapport à ce que je ne peux que dire de manière parfois très résumée et allusive au cours de nos entretiens, les personnes qui en voudraient un peu plus pourraient éventuellement se référer à cet ouvrage. D'autre part, je ne l'ai pas assez dit depuis le début, mais voilà, je préférais commencer et ouvrir notre travail. Je suis toujours disponible à toute question qui se poserait. Je préfère qu'on ne pose pas de questions pendant les entretiens, mais éventuellement soit à la pause, soit éventuellement après, encore qu'en général, ici, les pièces sont vite occupées. Mais vous pouvez toujours éventuellement m'envoyer des questions à mon adresse électronique. J'y répondrai dans la mesure du possible au début des cours, mais je compte aussi, comme chaque fois, puisque nous n'avons que 22 heures, pour les 22 chapitres, pour les 21 chapitres de Saint Jean, c'est quand même peu. Je me suis résolu il y a quelques années, à la demande du directeur de cycle, de couvrir tout l'évangile, parce que j'avais primitivement étalé le quatrième évangile en quatre parties, donc 1 à 6, 7 à 12, 13 à 17 et 18 à 21. Mais pour une introduction un peu globale au quatrième évangile, je pouvais comprendre certaines frustrations du point de vue, justement, de la perception d'une seule des quatre parties de l'Évangile. Mais donc, nous aurons aussi, et je me mettrai en contact avec les délégués d'étudiants, pour une séance hors cours, une après-midi, pour ceux et celles qui seraient libres, ou alors il y aurait possibilité de poser toutes les questions que vous souhaiteriez, et j'essayerai d'y donner au moins quelques éléments de réponse. Pour faire la transition avec ce que nous avions vu la semaine dernière, je reviens donc brièvement en conclusion sur la première évocation de l'esprit. Je vous avais donc suggéré de discerner l'esprit qui n'est pas cité dans le prologue hymnique à travers un certain nombre d'expressions, de prépositions, la gloire, la grâce, l'engendrement de Dieu, la relation même du Fils au Père. Et voilà qu'au début du prologue narratif, l'esprit est explicitement amené par Jean à la troisième phase de son témoignage à Israël. Et donc, j'ai attiré votre attention sur la grande importance à mes yeux de la distinction dans cet évangile entre les juifs, traduit par la Tob à l'heure actuelle, les autorités juives qui arrivent dès 1.19, dès le premier verset du prologue narratif, et donc la distinction que l'auteur fait entre les juifs du sud, Jérusalem, le temple, et Israël. C'est afin qu'il soit manifesté à Israël, dit le verset 31 du chapitre 1. Et c'est à cette occasion de la distinction entre le baptême d'eau de Jean et le baptême propre à celui qu'il annonce, Jésus, qu'il définit d'emblée comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il dit au verset 32, introduit avec le verbe du témoignage, donc c'est un verbe solennel, pourrait-on dire, il témoigna Jean disant « J'ai admiré l'Esprit descendant comme une colombe du ciel et elle demeura sur lui. » Alors voilà, s'il y a bien une réalité irreprésentable, c'est l'Esprit et elle se symbolise, il se symbolise cet esprit ici par la colombe. Je ne m'y suis pas attardé, mais enfin, la colombe ne peut pas ne pas évoquer la fameuse colombe au rameau d'olivier après le déluge dans le livre de la Genèse, chapitre 9, donc symbole de paix, puisque justement il est porteur de enlever le péché, de la rémission des péchés, mais c'est aussi, et c'est en général peu souligné, sinon par quelques auteurs comme André Feuillet, la colombe est un symbole souvent du peuple. Par exemple, dans le prophète Jonas, Jonas signifie en hébreu, je ne sais pas très bien pourquoi, on a toujours ajouté un S à Yona, mais donc Yona, c'est la colombe. Et le prophète représente précisément, comme souvent les prophètes, la vocation de son peuple. Donc, c'est important de réaliser à quel point l'évangéliste attire l'attention aussitôt sur la dimension, pourrait-on dire, collective, communautaire, sociale, du rôle de l'Esprit. Et en effet, si l'Esprit est communiqué par l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, il ne peut pas ne pas avoir un rôle collectif, social, éminent. Hein ? L'Esprit est, par définition, destiné à tous. Il plane sur les eaux de la Genèse, en Genèse 1, 2, et donc c'est aussi un emprunt que je dois à Paul Beauchamp. L'Esprit, c'est le don que Dieu réserve à son peuple et à l'humanité pour la fin des temps. Il plane sur les eaux à la création. Nous verrons aussi le fameux texte, si nous avons le temps, de Jean 7, 39, où il est dit « Il n'y avait pas encore d'Esprit » parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, tant que l'Esprit n'est pas communiqué comme principe de vie nouvelle, pour le quatrième évangile, il est comme n'étant pas. Et quand alors il surgit pour la première fois à propos du baptême en esprit de Jésus, qui se signifie pour Jean dans le symbole de la colombe, c'est dire que l'Esprit est en train de se communiquer effectivement comme ce qui rend possible l'engendrement de Dieu des croyants. Donc c'est capital, et c'est pour cela que ça vient aussi vite dans le prologue historique. il est remarquable aussi, vous voyez quand même, les accumulations, l'accumulation est significative, versets 32 et 33. Trois fois, l'esprit est d'abord mentionné comme descendant comme une colombe, et puis il devient, reprise, l'esprit descendant et demeurant sur lui, hein, répétition, descendant et demeurant. Donc, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, est présenté comme le lieu de l'esprit, c'est capital. Et ensuite, alors, celui-ci est celui qui baptise en Esprit Saint. Il est remarquable de voir apparaître pour la première fois l'Esprit Saint dans sa fonction. Il est celui qui permet à Jésus, comme agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, de plonger dans un baptême. Et pour anticiper déjà ce que nous verrons, j'espère sans trop tarder, la prochaine fois, à propos de la Samaritaine, comment Jésus baptise-t-il en Esprit Saint ? Eh bien, comme nous allons le voir immédiatement maintenant dans la suite du texte, dans des rencontres où il parle et il agit. Je crois qu'il y a, quelque chose à trouver là qu'on n'a pas encore, me semble-t-il, assez exploité. Et moi, j'ai vu, et donc ça c'est le verbe de la vision de foi, j'ai vu et j'ai témoigné que celui-ci est le Fils de Dieu, et je crois que c'est la leçon à préférer à tout autre, donc c'est son caractère royal aussi, pas seulement sa dimension transcendante, mais son caractère royal qui est souligné. Le Fils de Dieu, c'est un titre royal dans l'Ancien Testament. Ce qui marque donc une pause au verset 34, au terme de ces trois phases du témoignage de Jean, pour nous faire entrer dans les premières rencontres de Jésus avec d'autres le lendemain. 1.35, le lendemain. L'expression était déjà arrivée pour la troisième phase du témoignage de Jean au verset 29. Le lendemain, de nouveau, il s'était tenu Jean et d'entre ses disciples deux, et ayant fixé le regard en Jésus marchant, il dit « Vois l'agneau de Dieu ». On intitule souvent ces versets 1.35 à 51. Je vois vite cela à la lumière de la Tob, de la Bible de Jérusalem. Les premiers disciples ou les premières vocations. Oui, oui et non. C'est-à-dire, ce qui est remarquable, c'est que, à la différence, par exemple, d'un évangile comme l'évangile de Marc, qui donne son empreinte au genre littéraire évangile, et qui ouvre son récit par la vocation de deux fois deux frères, Simon et Pierre, Simon et André et Jacques et Jean, selon le schème des récits de vocation, mise en présence des partenaires, paroles échangées et surtout invitation de la part de Jésus à le suivre, et exécution. Ça, c'est le schème classique des récits de vocation, selon les synoptiques. Ce n'est pas ce que l'on trouve chez Jean, et c'est le point que je voudrais commencer par souligner. D'abord, ce que souligne Jean, c'est ce passage de Jean à Jésus et des disciples de Jean à ceux qui se mettent à suivre Jésus. Voilà le schéma en deux aspects complémentaires qui différencient le texte de Jean de celui des synoptiques dans leur récit de vocation. je m'empresse de dire que déjà à propos de ce que Jean disait du baptême d'eau et du baptême en Esprit Saint de Jésus, il y a véritable construction narrative, littéraire, théologique de l'évangéliste. Nous ne devons pas nous imaginer que les choses se sont passées historiquement exactement de cette manière-là. Hein. Il veut suggérer deux choses, à la fois le rôle de transition de Jean, dont la fonction est précisément de conduire à Jésus, et en même temps la différence radicale qu'il y a entre Jésus dont il témoigne et lui-même, Jean. Que ce soit dans la première partie du récit que nous avons vu la dernière fois ou ce que nous voyons maintenant, avant d'entrer dans le récit de Cana, il y a ce souci de suggérer une sorte de fondu enchaîné, dirait-on en termes cinématographiques, n'est-ce pas, entre ce qui se passe entre le milieu baptiste et le milieu de Jésus. Or, beaucoup de données des évangiles synoptiques, notamment, et puis lors du deuxième témoignage de Jean que l'on voit à la fin du chapitre 3 et au début du chapitre 4 de Jean, les données montrent que les choses n'ont pas été aussi simples ni aussi évidentes. Il y a eu des tensions entre les milieux baptistes et les milieux des disciples de Jésus. La preuve, par exemple, dans des situations de controverse avec des autorités du côté des pharisiens, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que les disciples de Jean jeûnent et que Jean se présente comme un ascète d'une manière toute différente de ce qui se passe pour Jésus. Donc, nous ne devons pas être dupes de la manière dont les choses sont racontées. D'une part, cette manière a un sens, hein, selon, disons, l'objectif que poursuit l'évangéliste, ce qui n'empêche absolument pas de savoir, par ailleurs, par la documentation que nous avons sur ces deux communautés, que les choses n'ont sans doute pas été si simples. De nouveau, la première désignation, parce que c'est quand même important, et c'est quelque chose qui a surpris, qui continue à surprendre pas mal d'interprètes, pourquoi cette insistance sur l'agneau de Dieu ? Un exégète aussi compétent que Pierre Grelot, qui a mené une carrière, on pourrait dire prestigieuse, à l'Institut catholique au siècle dernier, disait non, on peut pas facilement y voir l'agneau de Dieu qui renverrait aux serviteurs souffrants d'Isaïe, parce que, disons, cette dimension souffrante de la vie de Jésus n'apparaît que bien plus tard, à l'occasion des événements de la Passion et de sa crucifixion. Ah oui, mais il faut quand même maintenant faire droit, et ça c'est une bonne chose des études actuelles sur l'écriture, que ce soit l'Ancien et le Nouveau Testament, il faut faire droit à la manière dont l'auteur rédige son texte dans une réelle créativité littéraire et théologique, en laissant entendre que s'il insiste à ce point sur ce agneau de Dieu, il ne répète pas, parce que c'est inutile, ça a déjà été dit, que c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ce qui est une véritable révolution, même par rapport aux serviteurs souffrants. Hein ? Dieu présenté comme l'agneau dans sa vulnérabilité, et enlevant, non pas seulement portant sur lui comme le serviteur souffrant, mais enlevant autant le péché du monde, précisément parce qu'il baptise en Esprit Saint. Pourquoi est-ce que ça vient si vite et pourquoi est-ce que c'est tellement souligné ? Parce que pour cet auteur, qui va d'ailleurs jouer beaucoup sur le symbolisme de l'agneau pascal jusqu'à la mort de Jésus et jusqu'au côté transpercé en Jean 19, c'est capital. Jésus vient en quelque sorte accomplir l'alliance nouvelle en étant dépositaire et on pourrait dire communicateur, destinateur de l'Esprit Saint qui est seul capable d'enlever le péché. La vie de Dieu qui passe par le Fils de Dieu. Ils l'entendirent, les deux disciples, lui adressant, alors je vois l'agneau de Dieu, c'est pas simplement voici. Hein. Le lendemain, cette manière de compter le temps, les jours désormais, pour ma part, sauf respect que je dois à Marie-Émile Boismard, je ne pense pas que ce soit l'évocation d'une nouvelle semaine inaugurale qui ferait du début de la vie publique de Jésus une sorte d'écho de la création. C'est plutôt l'entrée dans un univers apocalyptique, de révélation, où le temps est compté, parce que, justement, Jésus est cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, désormais, il va y avoir une sorte de scansion du temps, qui va culminer alors dans la première mention de l'heure au récit de Cana que nous allons voir, parce que Jésus, alors on a beaucoup insisté, Bultmann a beaucoup insisté sur Jésus comme révélateur, oui, il est la révélation hein, en acte. Apocalypsis veut dire révélation. Hein. Alors, le corpus johannique comporte aussi une apocalypse, mais qui concerne davantage l'Église d'après Pâques en contexte de persécution. Mais il y a un caractère apocalyptique marqué du quatrième évangile aussi, parce que Jésus est présenté comme celui qui révèle Dieu, mais aussi, et ça c'est en général trop peu souligné, l'humain, l'humanité véritable. Il est le Fils de Dieu, il va être aussi défini comme le Fils de l'homme, un peu plus loin. Voix. Hein. Ouvrez vos yeux. Hein. Entrez dans une vision de foi. Cet homme est l'agneau de Dieu. Cet homme est Dieu sous l'aspect de l'agneau. Alors, vous voyez, très différent du schéma habituel d'évocation chez les synoptiques, s'étant tourné Jésus et les ayant admirés, le suivant, il leur dit « Que cherchez-vous ? » Première parole du Verbe incarné. Une question qui n'en appelle pas d'abord à une personne. Il ne dit pas « Qui cherchez-vous ? » Là, il dit « Que cherchez-vous ? » Il dira, c'est évidemment une expression qui aura une grande postérité par la suite, « Qui cherchez-vous ? » Il le dira dans la Passion, au chapitre 18, et puis « Qui cherches-tu ? » Il le dira à Marie de Magdala le matin de Pâques. Et le verbe « chercher » est un verbe couplé avec « trouver » dans la littérature sapientielle, cette fois, de sagesse, hein, qui cherche la sagesse, la trouve. On trouve ça dans beaucoup de textes, des proverbes, du livre de la sagesse. Et il en appelle donc à la quête profonde de ces gens. Que cherchez-vous ? Quel est votre désir ? Quelle est votre attente ? Et il est remarquable de voir que la question est répercutée par une autre question. Ils lui dirent, Rabbi, comme on est dans un milieu hellénistique où vraisemblablement on ne connaît plus très bien ni l'hébreu ni l'araméen, l'auteur traduit, interprète, un terme hébraïque et araméen, ce qui se dit interpréter maître, didaskalos, « Où demeures-tu ? » Et voilà qu'arrive ce fameux verbe « demeurer » qui est également un des verbes favoris du vocabulaire johannique et qui, comme je l'évoquais déjà, ça va devenir plus clair avec la scène au temple, a une connotation cultuelle. La demeure de Dieu, c'est la tente du désert, c'est le temple de Jérusalem. Demeurer, c'est donc le verbe qui va être aussi utilisé pour ce que l'on a appelé l'immanence réciproque du Père et du Fils. Hein. Le Père demeure en moi et moi en lui, comme vous demeurez en moi. Hein. Donc, immanence réciproque du Père et du Fils et du Christ et des croyants. Donc, voilà, ça. La première chiquenaude, si j'ose dire, est lancée de l'utilisation de ce verbe sous le mode de la question. Où demeures-tu? Qui n'est évidemment pas qu'une question qui porte sur un lieu spatial, géographique, mais qui est aussi un terme qui renvoie à un lieu spirituel, théologique. Où demeures-tu? Venez et vous verrez. Alors là, ce n'est pas le verbe de la sequela Christi, suivez-moi, hein, non. Venez et vous verrez. Et quand je traduis mettez-vous à venir, je traduis le présent pour faire comprendre qu'il y a là aussi un principe d'actualisation dans le texte. Le verbe est au présent parce que par-delà ce qui est dit à ces disciples de Jean qui suivent Jésus, le même impératif retentit dans nos vies de lecteurs et de lectrices de l'Évangile aujourd'hui. Venez et vous verrez. Et c'est de nouveau le verbe de la vision de foi. Ils vinrent donc et ils virent où ils demeurent. Donc, insistance, et chez lui, ils demeurèrent. Troisième fois que le verbe est employé. Ce jour-là, l'heure, et voilà. L'heure était ici environ la dixième, hein, c'est 4 heures de l'après-midi. Certains peuvent penser qu'il s'agit peut-être d'un vendredi, donc du début du sabbat, et que les disciples demeureront auprès de Jésus le temps du sabbat, la fin de la semaine, enfin le jour culminant de la semaine juive. Possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, le temps est très important. Ils demeurèrent ce jour-là, et c'est environ la dixième heure. Qui étaient ces messieurs? C'était André, le frère de Simon-Pierre. Personne n'a encore jamais entendu parler de ce personnage, mais il semble que, bon, pour l'évangéliste, tout le monde le connaît, hein. Un d'entre les deux qui avait entendu de chez Jean et qui l'avait suivi. Ah, quand même, là, le verbe de la suite du Christ est employé. Mais vous voyez, dans un tout autre contexte que les récits de vocation classiques. André, le frère de ce Simon Pierre que vous connaissez tous, évidemment. Et alors voilà, n'est-ce pas? À la différence, justement, de deux fois la vocation de deux frères, comme on le voit au début de l'évangile de Marc, ici tout se passe par relation interposée, hein, sorte de contagion de l'appel, sans intervention de Jésus. Il trouve celui-ci, André, d'abord son propre frère Simon, et il lui dit... Vous voyez, deux fois le verbe, alors ça disparaît dans les traductions élégantes, hein, mais il trouve son frère et il lui dit « Eurekamen, hein, nous avons trouvé le Messie. » Voilà. Hein, « Que cherchez-vous? Nous avons trouvé. » Chercher, trouver, typique de la littérature de sagesse. Et sagesse et apocalyptique dans l'Ancien Testament vont toujours de pair. Et donc, ceux qui ne connaissaient plus ce que signifie Messie, Messias en grec, Mashiach en hébreu, eh bien, on doit savoir que cela veut dire Christ, Christos, le oint, celui qui est oint de l'onction royale, sacerdotale, roi attendu de la dynastie de David. C'est toujours cet horizon-là qui se profile en arrière-fond. Il le conduisit auprès de Jésus, ayant fixé le regard en lui, Jésus dit, ça va très très vite, il faut attendre 16 chapitres pour la confession de foi de Pierre à Césarée de Philippe dans l'évangile de Matthieu par exemple, et pour voir le nom de Simon transformé en Pierre. Ici, cela arrive dès le premier contact entre Jésus et ce Simon-Pierre. Ce Simon qui a déjà été mentionné comme étant Pierre, mais dont on vous explique ici que c'est un nom transformé du premier au deuxième, Simon-Pierre. Toi, tu es Simon, le fils de Jean, toi, tu seras appelé Képhas, ce qui s'interprète Pierre. Donc trois fois aussi, voilà, c'est quand même un des indices, n'est-ce pas, du milieu hellénistique de l'écriture de cet évangile. Le fils de Jean, on ne sait toujours pas très bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas le fils de Jonas, comme dans les synoptiques. Et c'est cependant ce qui reviendra de manière très insistante aussi à l'autre extrémité de l'évangile, dans la rencontre entre Jésus et Pierre au bord du lac de Tibériade, en contexte de résurrection. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? Avec cette subtilité, cette finesse que nous connaissons à cet auteur, il ne serait vraiment pas impossible qu'il évoque ici discrètement une sorte de filiation entre Jean, qui est Jean ? Ben, l'auteur présumé du quatrième évangile, c'est pas trop, le disciple bien-aimé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le disciple bien-aimé interviendra pour la première fois en Jean 13 et par la suite toujours en lien avec Pierre. Et ce sont en quelque sorte, pour le dire tout de suite, les deux symboles, les deux types, les deux représentants de l'autorité dans la communauté. L'autorité institutionnelle, puisque Jésus, de toute évidence, ça s'est reconnu dans l'exégèse et dans le dialogue écuménique, Jésus investit Pierre d'une responsabilité patentée, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Jean, c'est l'autorité de l'amour, l'autorité du disciple bien-aimé. Est-ce qu'il y a là quelque chose ? Personnellement, je croirais volontiers, de plus en plus. Mais c'est une de ces énigmes qui resteront sans doute jusqu'à la fin des temps et qui donnera du travail aux exégètes jusqu'à la fin des temps. Le lendemain, il voulut sortir vers la Galilée. Ah, ça veut dire qu'on est plutôt, en effet, dans le contexte du baptême de Jean à Béthanie au-delà du Jourdain, plutôt dans le sud. Béthanie, au-delà du Jourdain, dans ce lieu maintenant bien mis en évidence par des fouilles où on a retrouvé des vestiges de plusieurs basiliques en l'honneur du baptême de Jean, est plutôt donc du côté de Jéricho, dans le sud. Donc, il voulut sortir vers la Galilée et il trouve Philippe. Vous voyez, le sujet n'est pas très clair. Peut difficilement penser qu'il s'agit d'un autre que de Jésus, mais enfin il y en a dont le père Léon Dufour qui n'hésitait pas à penser à André, par exemple. Et pour le dire au passage, donc, parce que c'est vraiment important, mais ça risque de passer inaperçu, les personnages qui ont été nommés jusqu'à présent, c'est André et Simon-Pierre, mais il y en a un qui n'a toujours pas été nommé. Le deuxième qui suit Jésus à partir des disciples de Jean, est-ce que, de nouveau, ce ne serait pas lui, il faut toujours distinguer le disciple bien-aimé, déjà présent, ce qui ne veut pas nécessairement dire l'auteur du quatrième évangile, mais enfin, voilà, là de nouveau une sorte de flou délibéré. Je pense que l'auteur est parfaitement conscient de ne désigner par son nom que André. André va trouver Simon, Pierre, son frère, mais Simon-Pierre n'est pas le deuxième des deux disciples qui se sont mis à suivre Jésus à partir du groupe de Jean. Voilà. Troisième personnage, Philippe. Il trouve Philippe et il lui dit, Jésus, là le sujet est parfaitement clair et on peut penser qu'il rejaillit sur tous les verbes qui précèdent. Alors, c'est le premier à s'entendre dire, et l'unique, par Jésus, suis-moi. Philippe, c'est un nom grec et il semble bien que tous ses premiers disciples soient de la région de Bethsaïde, plutôt, c'est pas du nord. Voilà, c'est clairement dit au verset 44, il était Philippe de Bethsaïde, de la ville d'André et Pierre. Voilà, c'est très clair. Donc, il trouve, alors vous voyez, de nouveau par contagion, hein, Jésus s'est adressé à Philippe, mais sans plus qu'il intervienne, Philippe sert de médiation à la découverte de Jésus pour Nathanaël. Là, le nom n'est pas traduit, mais il a un sens magnifique. Hein, c'est il donne Dieu. Hein, Nathanaël. Dieu donné. Hein, c'est Dieu donné, non. C'est il donne Dieu. Hein, c'est quelqu'un qui pourrait symboliser le don de Dieu. Mais ce n'est pas exprimé. La plupart du temps, on l'identifie à Barthélemy. C'est pour ça qu'on choisit d'ailleurs ce texte pour la fête de Saint-Barthélemy, célèbre dans l'histoire de France. Mais parce que Nathanaël arrive à la place de Barthélemy dans la série des disciples et des apôtres chez les synoptiques. Et il lui dit, alors voilà, hein, donc il y a déjà eu, qu'est-ce que c'est de nouveau ces phénomènes d'écho. Il y a l'accumulation de titres à propos de Jésus, depuis l'agneau de Dieu, puis Rabbi, puis Christ. Avant ça, il y avait eu le Fils de Dieu. Philippe dit à Nathanaël, donc de nouveau, il trouve Nathanaël, Philippe Nathanaël, et il lui dit, énoncé complexe, hein, qu'on traduit souvent de manière plus élégante, mais celui qu'avait écrit Moïse dans la loi. Donc l'aspect d'écrivain de Moïse est souligné ici, ce qui n'est en général guère le cas. Par exemple, dans le Deutéronome, Moïse parle, hein, il a l'autorité du législateur prophète. Mais celui qu'avait écrit Moïse dans la loi. Donc il est mis en position de scripteur, d'écrivain, d'auteur de la Torah. Et une Torah qui a un sens, on pourrait dire, messianique. Hein, celui qu'avait écrit Moïse dans la loi. Et les prophètes, et il y a une sorte de comment dire, de rupture de construction grammaticale là, n'est-ce pas ? Faudrait sous-entendre vraisemblablement celui qu'avait écrit les prophètes, hein, celui dont avaient écrit les prophètes, et c'est de nouveau un peu étonnant que les prophètes soient aussi définis ici dans un rôle d'écrivain, donc la médiation de l'écrit est fortement soulignée. Nous l'avons trouvé, Eurekamen, de nouveau, n'est-ce pas, Jésus, fils de Joseph, celui de Nazareth. Le quatrième évangile ne parle pas de Marie, époux de Joseph, époux de Marie. Alors, on peut penser qu'il y a ici une évocation de ce rapport de filiation adoptive Jésus par rapport à Joseph, mais comme on est dans un contexte de révélation plutôt messianique, certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un messie de la descendance du patriarche Joseph dans la Genèse. Et Il y a en effet des témoignages dans la littérature rabbinique sur une attente d'un Messie de la descendance de Joseph, comme il y a un Messie attendu de la descendance de David, Joseph étant le grand patriarche du Nord, hein, Éphraïm, Israël, et David étant la figure royale de Jérusalem en Juda. Il n'y a qu'un autre endroit dans le quatrième évangile où le terme arrive, et c'est aussi au cœur du chapitre 6. Je vous reprends rapidement, c'est dans les murmures des Juifs à l'encontre de Jésus. Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, dont nous savons le père et la mère, en 6,42. C'est pour ça que j'intitule cette première grande partie de 1,19 à 6,71, « Qui est Jésus, le fils de Joseph ?» Parce que ici, disons, dans le contexte de ces versets 1,19 à 2,12, si on découpe le texte de cette manière-là, pour la première grande séquence de du prologue narratif, nous sommes au cœur de ce récit. Et bien entendu, ce qui est tout de suite sensible, c'est aussi quelque chose de l'ordre d'un contraste sapientiel, n'est-ce pas ? Jésus, le fils de Joseph, celui de Nazareth. Alors, d'ailleurs, le celui de Nazareth peut s'appliquer autant à Jésus qu'à Joseph, il s'appliquerait plutôt ici à Jésus lui-même, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph étant en apposé à Jésus. Contraste parce que, c'est ce qui arrive immédiatement sur les lèvres de Nathanaël, de Nazareth, peut-il être quelque chose de bon ? Ça ne sonne pas de nouveau très bien en bon français, mais enfin on dit souvent de Nazareth, peut-il sortir, venir, quelque chose de bon ? Non. Ça porte sur l'être. Peut-il être, hein, comment de ce petit bled de Nazareth peut-il sortir quelqu'un qui serait en quelque sorte le support de l'attente messianique dans la Torah et les prophètes ? Viens et vois. Jésus avait dit au premier « Venez et vous verrez » et de manière certainement suggestive, l'auteur fait reprendre par Philippe exactement les mêmes verbes au même mode, sinon au même temps que la première apostrophe de Jésus. « Viens et vois » et qui dit beaucoup, hein, c'est-à-dire c'est de nouveau pas du tout une question. Et voilà, c'est ça qu'il y a quelque chose qui explique le blocage de Nathanaël, n'est-ce pas ? Il en a peut-être trop dit, Philippe. Hein ? Il s'est trop mis au plan d'une identification, on pourrait dire, conceptuelle. Hein ? Et peut-être, avec un rien de prestige. Hein ? Et là, ça bloque. Seule issue possible, comme souvent dans la relation avec Jésus, il faut vivre la rencontre, il faut vivre la relation, et c'est à partir de cela que les choses se débloquent. Et c'est exactement ce qui se passe au dernier verset. Il vit Jésus Nathanaël venant auprès de lui, et il dit à son sujet, on ne sait pas bien d'ailleurs à qui il s'adresse, vois, donc vraiment un Israélite de nouveau. Distinct d'un juif, hein ? Distinction entre l'Israël du Nord, Juda du Sud, en qui de ruse il n'y a pas. Vous trouvez beaucoup d'exemples, notamment dans les psaumes et chez les prophètes, où l'absence de ruse qualifie le juste, hein ? Celui qui fait le jeu de la ruse du serpent, dès Genèse 3, est menacé d'être lui-même rusé. Mais ici, l'éloge va dans dans le sens d'une absence totale de propos qui, de près ou de loin, feraient penser à la ruse du serpent. D'où me connais-tu ? Avant que Philippe ne t'ait appelé de la voix, toi étant sous le figuier, je t'avais vu. Je t'avais vu. On a souvent expliqué, en fonction de l'expression sous la vigne et le figuier, que Nathanaël serait éventuellement occupé à étudier la Torah, parce que c'est une expression qui, dans l'Ancien Testament ou même dans la littérature juive, va en ce sens. Personnellement, donc comme vous le voyez dans la note en bas de page de la traduction, je suis plutôt l'interprétation d'un grand exégète anglican, anglais, Moule, qui y voit de nouveau plutôt un accent apocalyptique. Jésus est un visionnaire qui, du premier regard, a percé le fond de la personnalité de Nathanaël. Je t'ai vu sous le figuier. Et l'exemple le plus remarquable, n'est-ce pas, c'est celui qu'il prend dans Daniel 13, 54. Vous vous rappelez toute cette fameuse histoire au terme du livre de Daniel, le quatrième des grands prophètes, l'histoire de Suzanne, que les deux vieillards avaient vu sous un arbre. Ils se confondent en disant qu'il s'agit de deux arbres différents, n'est-ce pas ? Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, je crois. Et Daniel est de nouveau le livre apocalyptique par excellence. Donc. Confession de foi, illico, parce que la rencontre a eu lieu. Rabbi, ça, c'est pas nouveau, on l'avait déjà vu au verset 38. Toi, tu es le Fils de Dieu, on l'avait déjà vu en 1.34, mais c'est maintenant une véritable confession de foi. Toi, roi, tu es d'Israël. Jésus sera condamné à mort comme roi des Juifs. Il est confessé ici comme roi d'Israël. Et, comme toujours, toute insistance sur la royauté de Jésus s'accompagne d'une insistance sur sa dimension de médiation sacerdotale. Qui a l'onction royale a aussi l'onction sacerdotale. L'autorité du roi est aussi une autorité cultuelle. Mais, alors, c'est aussi à souligner chaque fois, tout affleurement du culte, sauf dans le texte du temple, première grande scène publique de la vie de Jésus, toute dimension cultuelle liée à ces titres est en quelque sorte contrôlé par, au fond, un contexte non cultuel. Hein ? On ne sait même pas très bien où se passent ces scènes. Hein ? Je crois qu'il y a quelque chose de très, très fort dans le quatrième évangile. Jésus est le prêtre, non pas au titre de grand prêtre, comme le souligne l'épître aux Hébreux, mais parce qu'il est le Fils. À ce titre-là, il est médiateur, et le médiateur ne peut pas ne pas avoir un caractère sacerdotal entre Dieu et les hommes. Et pour éviter encore toute ambiguïté, n'est-ce pas, quand je parle de sacerdoce, je me situe tout à fait en deçà de tout ce que le sacerdoce est devenu dans la tradition chrétienne et catholique, en particulier dans une distinction entre un sacerdoce commun des fidèles et un sacerdoce presbytéral des ministres, hein. C'est, au fond, l'être médiateur de Jésus qui est défini en tant que tel et dans lequel il nous entraîne quand nous le laissons agir en nous. Et les deux versets conclusifs sont tout à fait révélateurs, n'est-ce pas ? Parce que je te dis que je t'avais vu en dessous du figuier, tu crois. Ah, voilà, verbe capital, tu crois. Il n'y a que le croire qui lui permette de confesser Jésus comme fils de Dieu et roi d'Israël. Hein? Jésus reconnaît son croire au fruit qu'il porte dans sa confession de foi. Et il lui dit, donc, parce que je te dis que je t'avais vu en dessous du figuier, tu crois, plus grand que ces choses, tu verras. Au futur, toujours le même verbe, plus grand. Alors, de quoi s'agit-il ? Verset 51, toujours, hein ? Laissez le texte s'expliquer lui-même. Viens à notre secours pour nous faire comprendre ce que Jésus veut dire. Amen, amen, je vous dis. Ah, donc, il ne s'adresse plus uniquement à Nathanaël comme personne singulière. Je vous dis. Nathanaël sert d'occasion à une révélation beaucoup plus large, hein, plus universelle. Vous verrez, vous. Je t'ai vu, tu verras, vous verrez, vous verrez. Le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Les anges, les envoyés, renvoient évidemment au songe de Jacob, en Genèse 28, grand texte de révélation du patriarche. Le songe de Jacob fait justement aussi de Jacob le lieu de la révélation. Et dans le livre de la sagesse, ce songe de Jacob est interprété dans le sens d'une véritable révélation de la sagesse par la sagesse. Je veux aussitôt appuyer mon propos par la citation exacte de Sagesse 10.10, c'est facile à retenir, n'est-ce pas ? Ainsi le juste qui fuyait la colère de son frère, la sagesse le guida par de droits sentiers, elle lui montra le royaume de Dieu et lui donna la connaissance des choses saintes. Magnifique interprétation par le livre de la sagesse du songe de Jacob, qui nous fait aussi comprendre le verset 51, le dernier verset du chapitre 1 de Saint Jean. D'autant plus, c'est tout à fait remarquable, les études de Meyer, n'est-ce pas, en particulier sur la dimension royale de Jésus, ont attiré l'attention sur le fait que le royaume de Dieu, hein, au verset 10 de Sagesse 10, est le seul emploi dans l'Ancien Testament de cette expression. Nous nous reposons un peu pour entrer alors ensuite dans le diptyque. Je voudrais relever ce défi, le diptyque de Cana et du Temple. On se donne 10 minutes, pas plus. Merci. Étant donné tout ce qui est mis en place par le chapitre 1 de Saint Jean, dans le prologue hymnique des 18 premiers versets et la suite de 1, 19 à 51, que nous avons un petit peu épluché, et qui peut, disons, faire penser à qui travaille l'Alliance dans l'Ancien Testament, tout ce qui tourne autour de la titulature, hein, tous les titres de Jésus sont en quelque sorte étiquetés. Si donc nous avons bien en mémoire tout ce qui est ainsi défini de la personne de Jésus dans son entourage immédiat avec Jean, les disciples de Jean et ses premiers disciples qui se mettent à le suivre lui, alors la noce à Cana en Galilée peut prendre tout son sens. Le texte apparaît à la fois comme l'aboutissement de ce qui vient d'être dit et traversé, et en même temps l'annonce, l'amorce de tout ce qui va suivre. Je vous ai dit que je voudrais mettre surtout en évidence aussi le rapport entre les deux séquences dans lesquelles nous allons entrer, mais voilà, il ne faut pas non plus forcer la dose. Mais pour moi, de plus en plus, je crois que Cana et le temple forment une sorte de diptyque. Et nous allons pointer un certain nombre d'éléments qui vont dans ce sens, mais en nous ménageant quand même un minimum de traversée de ces deux textes qui, pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir leur fonction à la fois littéraire et théologique dans le contexte, sont de nouveau d'une densité incroyable. Chaque fois qu'on relit le récit de la noce, je vais m'en expliquer dans un instant, au singulier à Cana, on se rend compte que voilà, c'est un texte inépuisable dans sa simplicité déconcertante elle-même. Et le jour, le troisième. Une noce. Le grec pourrait dire dénos. On trouve le pluriel en grec. Et cependant, c'est le singulier qui est utilisé, comme pour suggérer le caractère unique et exemplaire de cette noce-là. Une noce. De vin, on retrouve le fameux verbe qui introduit dans l'histoire depuis le prologue hymnique. En Cana de la Galilée, et elle était la mère de Jésus là. Dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament, beaucoup d'événements importants surviennent le troisième jour. Pour dire la réminiscence la plus exploitée à l'heure actuelle, alors que la Bible de Jérusalem traduit le troisième jour de la théophanie du Sinaï en Exode 19-16, en fait, l'expression hébraïque sous-jacente et traduite en grec de la même manière, c'est le troisième jour. Il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne du Sinaï. Donc c'est le moment de la conclusion de l'alliance. Alors, le terme « alliance » n'est pas employé, c'est une des remarques que l'on me fait quand je dis que l'arrière-fond du corpus johannique est tissé par les réminiscences de l'alliance, mais le terme n'est pas employé. Oui, mais le contenu est partout présent. Donc, et comme je vous l'ai dit, je crois déjà très vite, le terme « alliance » n'est peut-être pas employé parce que la communauté de Qumran se définit comme la communauté de la nouvelle alliance. Est-ce que le quatrième évangéliste savait cela? Toujours est-il que, voilà, il évite peut-être le terme pour ne pas prêter à équivoque par rapport au milieu de Jésus. Mais le troisième jour, évidemment, dès Genèse 1, c'est d'abord le troisième jour de la création, de la semaine inaugurale, pour le coup. C'est le moment où surgit par la volonté du Créateur qui vit que tout cela était bon, n'est-ce pas? La nourriture végétale. C'est important parce que le premier couple est végétarien, donc c'est la nourriture qui est mentionnée. La Bible s'occupe beaucoup de manger et de boire parce que c'est indispensable à la survie, à la subsistance. Mais alors, c'est aussi le troisième jour, par exemple, plutôt dans le Pentateuque, en Genèse 22, 4, que Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin où il est supposé devoir offrir son fils Isaac. Alors bon, je fais Bref, mais alors il y a aussi le grand texte d'Osée 6.2 qui est d'ailleurs repris comme texte pour entretenir notre espérance de la résurrection, le samedi saint. Venez, retournons vers le Seigneur, il a déchiré, il nous guérira, il a frappé, il pansera nos plaies. Après 2 jours, il nous fera revivre. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Et donc, c'est une bonne attestation dans les prophètes et dans l'Ancien Testament d'une espérance en la résurrection le 3e jour. Cependant, pour respecter de nouveau la singularité des récits évangéliques, Jésus, selon ses récits, ne se révèle pas vivant le 3e jour, mais le jour 1 de la semaine, hein, donc le jour inaugural de la semaine de Genèse 1-5, qui justement, en hébreu, prend aussi l'adjectif numéral cardinal, jour 1, Yom Erad. Donc, il peut y avoir une évocation possible de la résurrection, mais certainement pas première. Et en général, maintenant, la réminiscence privilégiée, c'est la réminiscence du lieu dans le judaïsme vraiment constitutif du peuple juif, n'est-ce pas ? C'est le don de la loi au peuple pour qu'il puisse vivre en tant que peuple, par la médiation de Moïse, avec le décalogue et ce que l'on appelle ensuite le code de l'Alliance. Mais voilà, et ça c'est de nouveau, n'est-ce pas, une marque sapientielle, le 3e jour, on s'attendrait à ce que, bon, voilà, une noce survienne dans un lieu prestigieux. Or, un peu sur le modèle de Nazareth dont il a été question, Cana de la Galilée tranche radicalement avec, on pourrait dire, le caractère prestigieux qui évoque la théophanie du Sinaï. Voilà. Une théophanie dans cette noce, d'ailleurs l'alliance, très vite, que ce soit chez les prophètes ou dans la littérature rabbinique, est comparée à un lien nuptial entre le Seigneur l'époux et son peuple l'épouse. Mais l'événement survient à Cana de la Galilée. On dit toujours, il y a la Cana des franciscains, ça c'est la Cana des touristes, n'est-ce pas ? C'est vraisemblablement pas la vraie Cana, la Cana dont il est question rarement, mais quand même aussi dans l'Ancien Testament, c'est un peu plus au nord. Mais donc c'est un lieu encore discuté archéologiquement aujourd'hui. Donc, intéressant. Donc petit bled, n'est-ce pas, de la Galilée qui tranche par rapport, bon, par exemple, le sacrifice d'Isaac par Abraham, c'est le mont Moria. Le mont Moria, c'est le lieu où est construit le temple de Jérusalem, hein, et avec toutes les vicissitudes des relations entre le judaïsme et l'islam, c'est le lieu de la mosquée d'Omar à l'heure actuelle, n'est-ce pas ? Ceux et celles qui sont passés par là ont pu se rendre compte de cela. Donc, non. On s'attendrait donc à quelque chose, à un lieu prestigieux, or, en fait, non. Contraste radical. Hein, la révélation se fait autrement qu'on ne pourrait s'y attendre, compte tenu de tout l'arrière-fond vétérotestamentaire et juif. Et elle était la mère de Jésus là. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle vient aux noces, d'accord. Mais le point, c'est que ce ne sont pas d'abord les époux qui semblent être mis en relief au devant de la scène, c'est la mère et Jésus, la mère de Jésus. Eh bien, vous avez bien deviné, les époux, ce sont ces deux-là. Mais alors, au prix de quel travail d'interprétation ? Eh bien, au prix de toutes les précisions qui vont être données. Et donc, les personnages principaux de la noce ce sont bien ces deux personnages-là. D'autant plus surprenant que ce n'est pas le lien nuptial ou conjugal qui est mis en évidence, c'est la fécondité maternelle et la filiation qui en dépend. Jusqu'à présent, il n'a été question que du père de Jésus. Le fils de Joseph pouvait éventuellement faire penser à Joseph, le charpentier, c'est sans doute pas le sens fondamental et premier de l'expression dans le quatrième évangile, mais la mère et Jésus sont donc présentés au premier plan de cette noce parce que c'est d'eux qu'il s'agit en priorité. Et il fut appelé aussi Jésus et ses disciples à la noce, avec un verbe au singulier, comme pour suggérer que Jésus et ses disciples ne font déjà qu'un. Il n'y en a pas beaucoup hein, jusqu'à présent. Il y a André, Simon-Pierre, Philippe, Nathanaël. Et alors, ce nom s'est-il nommé ? Ils sont cinq, quand même. Jésus, en général, appelle. Ici, il est appelé. Un peu étrange aussi. Mais ça, c'est de continuellement, n'est-ce pas, dans les détails, des sortes de petites choses trappes là, qui doivent retenir l'attention. C'est pour ça que j'adopte une traduction littérale, un peu rêche, mais qui a l'avantage de réveiller l'attention. Et alors, au verset 3, capital, deux leçons dans la tradition manuscrite. Alors, on ne va pas faire de l'érudition en critique textuelle, mais enfin, je crois que c'est tout à fait important. Dans le texte bref, il est dit qu'il n'y a pas de vin. Du vin ayant manqué. Il manque quelque chose à cette noce pour qu'elle soit comblée, comblante. Alors, ça a ennuyé les copistes et ils se sont dit, bon, mais il faut essayer de comprendre un peu mieux. Alors, il y a une autre version plus longue. Du vin, il n'en avait pas parce que avait été complètement achevé le vin de la noce. Ça, c'est une leçon un peu facilitante. En général, quand on glose, hein, on essaye de faire comprendre quelque chose qui semble à première vue incompréhensible. Voilà. Or, la mère de Jésus dit en parole la situation, donc à mon avis, il n'y a aucun doute, du vin, ils n'en ont pas. Non pas, ils n'en ont plus, ils n'en ont pas. Et il lui dit Jésus, littéralement, quoi pour moi et pour toi, femme ? Vous avez sur la feuille de présentation de la noce à Cana, un certain nombre de textes qui mettent en cause des personnages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui utilisent pratiquement la même formule jusque la relation entre Jésus et un esprit impur en Marc. 1.24 et 5.7 à deux reprises, hein, « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» dit l'esprit impur à Jésus. Donc c'est assez impressionnant de vérifier qu'il n'y a cependant qu'une seule fois ici l'expression employée par un homme dans sa relation à une femme, en l'occurrence Jésus et sa mère. C'est unique. Alors, que se passe-t-il ? Il pose d'abord la question d'une manière étonnante, évidemment. Ça a toujours surpris qu'il dise « femme »,« gunaï hein ». Le vocatif de « gunaï ». La femme, gunée, traduit en grec gunée, renvoie à Ève dans la Genèse. Hein? Donc, c'est d'abord l'identité féminine du personnage qui est épinglée. Mais, en contexte de noces, c'est le seul personnage féminin qui soit aussi ainsi désigné comme l'épouse possible. Il sera question de l'époux, mais de l'épouse, apparemment, il en est très très peu question. Alors, pour le dire tout de suite, je ne veux absolument pas suggérer que la relation entre la mère et Jésus prenne à ce point le devant de la scène que les époux de l'événement célébré disparaissent complètement. Au contraire, hein, ils sont comme au service de la joie de cette noce, mais en position précisément privilégiée. Donc la première, la seule à la limite que l'on puisse identifier comme l'épouse dans ce récit de noces, c'est la mère de Jésus, dans les paroles mêmes de Jésus. Et alors je vais vous surprendre un peu sans doute, j'adopte la lecture du cardinal Vanois, donc je sors mon parapluie, j'ai quand même une autorité importante, n'est-ce pas ? Mais enfin, il n'y en a pas 36 qui attirent l'attention sur le fait qu'il y a sans doute de bonnes raisons pour interpréter les deux phrases de Jésus sur le mode interrogatif. « Pas encore n'est-elle arrivée mon heure à moi ?» Donc, il ne dit pas ce que, vraisemblablement, je ne sais pas maintenant la nouvelle traduction liturgique, je ne pense pas qu'elle ait changé quoi que ce soit à ce niveau-là, parce que ça changerait trop les habitudes, et cependant, il est bon de temps en temps de changer les habitudes, mais « mon heure n'est pas encore venue ». Eh bien, ce n'est pas ça que je crois que Jésus veut faire entendre. Il veut au contraire, sur le mode interrogatif, car il est possible de lire le texte sur le mode interrogatif, qu'il est parfaitement conscient de l'heure qu'il est. Et le verbe qui est utilisé, ce n'est pas le verbe classique qui reviendra à plusieurs reprises. Par la suite, mon heure n'est pas encore venue avec le verbe erkomai. Ici, c'est le verbe ekein, eko. Mon heure n'est-elle pas encore arrivée ? Penses-tu que je ne sais pas qu'elle est déjà en train d'arriver ? Et je crois que c'est vraiment beaucoup plus conforme à toutes les données du quatrième évangile, l'heure de Jésus, qui englobe, bon, d'abord son mystère pascal, d'accord, hein, mais aussi toute sa vie, s'ouvre à ce moment à Cana de la Galilée. Toute sa vie est en quelque sorte la mise en œuvre de son heure. Et de nouveau, l'idée, le concept est apocalyptique, l'heure de la fin. Donc toute la vie de Jésus est à l'enseigne de son heure. Et il ne faut pas attendre les derniers événements de sa vie pour que cette heure resplendisse de tout son éclat. Il veut justement faire comprendre dans cette question à la mère, dans la logique du récit, que lui est maintenant arrivé à son heure. Ce qu'il vous dira, faites-le. Critiquant certains travaux, des auteurs que je critiquais ont dit, je critique souvent le fait qu'on traduise par « tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Et donc, quand on traduit de cette manière-là, c'est le « tout » qui semble prendre l'accent. Non, il ne dit pas « tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Simplement, ce qu'il vous dira, alors avec le « an » éventuel, alors des amis me disent « c'est pas très élégant », ben voilà, c'est pas élégant, ce qu'il vous dira éventuellement, donc elle souligne l'éventualité, et alors, avec cette éventualité, on peut entendre la globalité de ce qu'il dira. Enfin, voilà. L'accent porte sur le rapport entre dire et faire. Et ça, c'est typique de l'Alliance. Parce que, bon, alors là, je l'ai dans mes notes, mais autant le reprendre immédiatement dans la lettre même, par exemple, d'Exode 24, mais ça se retrouve aussi dans le livre du Deutéronome, n'est-ce pas ? Au moment de la conclusion de l'Alliance, donc après 19, la théophanie du Sinaï, le don de la loi, au moment de célébrer l'Alliance accomplie, le peuple dit « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous y obéirons. » Voilà. Ça, c'est vraiment représentatif de l'engagement du peuple, du partenaire du Seigneur dans l'Alliance, il faut faire ce qu'il dit. Ça reviendra dans le Deutéronome comme un leitmotiv, il faut garder les commandements, il faut les observer. C'est ça. Et c'est remarquable que ce soit repris par la seule autre parole de la mère de Jésus dont nous disposions dans le quatrième évangile. Elle dit deux choses. Ils n'ont pas de vin, ce qu'il vous dira, faites-le. Alors vous pouvez peut-être prendre, parce que ça peut aider, la schématisation, n'est-ce pas, que je vous ai donnée du texte, schématisation et réduction aux composantes essentielles de Genèse 1-12. Ce qui arrive au cœur de ce texte qui est un texte de noces, après la deuxième parole de la mère au servant, hein, au diakonoi. Il ne serait pas impossible que l'auteur évoque quelque part les diacres, n'est-ce pas ? Enfin, de manière très, très elliptique de nouveau. Ce qui est au cœur de ce texte, ce sont ces fameuses jarres de pierre. Ce ne sont pas d'argile. Avec l'argile ou d'autres ustensiles, on serait exposé aux règles du pur et de l'impur. La pierre étant un matériau solide, hein, qui n'a pas été fait de main d'homme, n'expose pas aux lois du pur et de l'impur. Il y avait là des jarres de pierre, 6. Donc 6. 7 moins 1, c'est la perfection moins 1. Hein ? Enfin, on n'en est pas loin. Selon la purification des Juifs, et je dis en note, je continue à croire ça, cette description minutieuse des jarres, leur fonction, la place qu'elles prennent dans le récit, attire l'attention par leur caractère insolite à tous les niveaux, symbolique, rituel et social. Que viennent faire ces jarres de pierre de la purification des Juifs en plein contexte de noces ? Ah ben c'est la bonne question. Il faut poser la question parce que c'est exactement ce que veut souligner l'évangéliste. Il faut, en quelque sorte, articuler ce qui est de l'ordre de tout ce qui évoque ces jarres de pierre pour la purification des Juifs qui vont être remplis d'eau, pour comprendre le sens de l'événement qui va suivre. Pas de vin sans eau, pas d'abondance de vin sans abondance d'eau, et donc c'est aussi, voilà, le père Donatien Mola de temps en temps, n'est-ce pas, a des petites notes tout à fait savoureuses. Ces jarres de pierre 6 contenant chacune des maîtrettes, 2 ou 3, note de Mola dans le fascicule de la Bible de Jérusalem. Donc, la mesure étant d'environ 40 litres, ça fait 5 à 7 hectolitres. Voilà. La surabondance qui est la caractéristique de ce que Jésus propose. Remplissez les jars d'eau, ils les remplirent jusqu'en haut. Et alors, on voit, le texte est admirablement construit. La parole de la mère au servant, maintenant, est relayée par la parole de Jésus, au même personnage. Puisez maintenant, mettez-vous à portée au chef de repas. Terme extrêmement rare, architriclinos. Archi, hein. Maître de repas, mais enfin quelqu'un qui... Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'archiprêtre, de l'archevêque. En tout cas, il y a quelque chose lié à l'excellence, là. Hein. Ils portèrent. Exécution. Or, comme il goûta le chef de repas, l'eau vint de venue, il ne savait pas d'où elle est, les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il appelle de la voix l'époux, le chef de repas, et il lui dit, tout homme, premièrement, le beau vin, il le pose, et quand on s'est enivré le moindre, toi, tu as gardé le beau vin jusqu'à présent. Ce qui a vraisemblablement légitimé la glose de celui qui a adopté la leçon longue du verset 3. Il y a une raison dans le texte qui puisse faire penser qu'il y a eu du vin et puis qu'il n'y en a plus eu. Hein. C'est pas contraignant. Alors, la clé se trouve là-dedans, évidemment. N'est-ce pas ? D'une part, c'est une question de goût. Il faut goûter le sens. Le quatrième évangile, il y a un très bel article du Père Mola là-dessus, justement, sur les cinq sens dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas ? Le quatrième évangile, qui est l'évangile du Verbe fait chair, de la parole chair devenue, ah ben on la retrouve là. Comme il goûta le chef de repas, l'eau vint devenue. L'eau vint devenue, c'est un écho de la parole chair devint en 1,14. Cana, c'est l'actualisation par excellence de l'incarnation. Et donc, ça c'est une lecture dans la patristique latine et grecque, n'est-ce pas, classique, la noce à Cana, le vin de Cana, c'est le vin de l'Alliance nouvelle. Donc, on est en contexte d'alliance, mais on assiste à l'Alliance nouvelle. Alors que les versets qui précédaient dans le chapitre 1 insistaient beaucoup sur la vision, hein, ici c'est le goût, le sens le plus intérieur, le plus personnel. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Hein. Et voilà, il faut goûter, il y en a qui ne goûtent pas. C'est pas intellectuel, c'est pas conceptuel, c'est sensible, j'allais dire charnel. Et le beau vin jusqu'à présent, souvent interprété dans le sens justement du beau vin de ce maintenant eschatologique rendu présent par Jésus. Mais je reviens, évidemment, parce que, voilà, comme je vous avais dit, le maître du repas s'adresse à l'époux, mais de l'épouse de la noce dont il est question, on n'a pas d'autre indice que tout ce qui tourne autour de la relation de Jésus et sa mère. Bien, pour essayer de faire comprendre comment j'interprète la scène, je crois qu'elle elle peut être interprétée dans ce sens. Rappelez-vous, hein, le rapport de Jean à Jésus est un rapport double, à deux plans. Au plan de la chronologie, Jean précède Jésus. Au plan de l'être, au plan de l'accomplissement du dessein créateur et sauveur de Dieu, Jésus, comme parole de l'origine, précède Jean. Eh bien, je crois qu'on a quelque chose d'analogue, mais alors poussé à un état d'incandescence beaucoup plus fort, n'est-ce pas, du point de vue de la relation de la mère et de Jésus. au plan de l'histoire, au plan de la chronologie, cette femme est la mère de Jésus, cet homme, et elle précède Jésus. Au plan de la réalité du dessein de Dieu qui s'accomplit dans le monde et dans l'histoire et qui surplombe, qui dépasse, qui transcende l'histoire, Jésus est mis en position d'époux dans l'Alliance et la femme d'abord présentée comme mère est mise en position d'épouse. Dans le prolongement du rapport entre le Seigneur et Israël dans l'alliance vétérotestamentaire qui, en s'accomplissant dans l'incarnation, fait de Jésus le Fils, le Verbe, l'époux, et de sa mère, l'épouse, Église. Et j'insiste toujours, n'est-ce pas, sur le fait que comment la nouveauté est-elle exprimée là? Eh bien, précisément par ce rapport nuptial qui s'accomplit alors qu'il ne pouvait guère s'accomplir dans les limites de l'Ancien Testament. Le texte le plus fort qui dise le rapport complexe du Seigneur à son peuple comme époux de l'épouse dans l'histoire et dans la création, c'est Isaïe 54:5, après le grand quatrième chant du serviteur, le serviteur souffrant, qui a d'ailleurs été évoqué par l'agneau qui enlève le péché du monde. Il est dit dans ce texte, « Ton Créateur, c'est ton époux. » Toute la nouvelle alliance est là. Comment ? La nouvelle alliance, donc, c'est l'alliance entre le Seigneur époux et Israël épouse, mais fondée dans la création elle-même. Ton Créateur, c'est ton époux. La nouvelle alliance, c'est l'alliance qui a pour fondement la création, le Créateur. Voilà le point, un des points d'incandescence, d'aboutissement, d'accomplissement majeur sur le mode de la prophétie pour un temps indéterminé. Hein ? Ton Créateur, c'est ton époux, mais à l'état de promesse. Cette promesse s'accomplit dans la relation du Verbe incarné à sa mère, dans le Christ et dans l'Église. Et en quoi y a-t-il là absolue singularité, nouveauté? Eh bien, en ce sens, alors là, je lis l'Écriture dans la tradition, évidemment, n'est-ce pas? Enfin, évidemment, beaucoup d'exégètes s'interdisent de faire ça, moi je ne peux pas le faire. Je ne peux pas ne pas méditer sur les noces de Cana en pensant à toute sa postérité dans la tradition, y compris jusqu'à voir dans la noce à Cana de la Galilée le vin eucharistique, le vin de la noce eucharistique, n'est-ce pas ça, les grands mystiques vous diront ça, Thérèse d'Avila en tête, l'Eucharistie, c'est le banquet des noces de l'agneau, enfin, c'est exactement la symbolique que va prolonger l'Apocalypse de Jean. Mais jamais, dans la tradition chrétienne, on épouse le Père, le Créateur. Le Créateur peut se dire l'époux d'Israël, l'épouse. Mais pour que la relation de cet ordre soit effective, il faut l'incarnation. On n'épouse que le Verbe. Je conclus, celui-ci, il le fit, le verbe faire, qui a un sens de création. Le verbe faire, traduit dès Genèse 1, en grec, dans la Septante, le verbe bara, créer, poiein en grec, n'est-ce pas ? celui-ci, il le fit. Comme commencement des signes, Jésus en Cana de la Galilée. Pas le premier des signes, le commencement des signes. Donc, il y a un clin d'œil là. On est renvoyé au début du prologue hymnique, au commencement, il y a la parole. Et c'est le commencement des signes, en ce sens que, comme pour la parole de commencement, elle contient l'état d'exemplaire, de type, on pourrait dire, parfait, tout ce que les autres signes vont déployer comme implication. Le commencement des signes n'est pas le premier de la série des autres, il en est le fondement, il en est le socle. Et c'est pourquoi, alors, la dimension nuptiale est très importante, n'est-ce pas ? Le Christ, c'est l'époux. Et pour ne pas... Parce qu'il faut faire très attention, hein, on voit ça dans les écrits spirituels des mystiques, il ne faut pas s'embrouiller les pinceaux avec l'interdit de l'inceste. Hein. Il faut vraiment respecter les deux plans différents. Hein. C'est au plan de la chronologie qu'il y a le rapport de la mère au fils, et au plan de l'accomplissement, au plan de l'être, on pourrait dire, n'est-ce pas, qu'il y a le rapport entre époux et épouse. Et c'est le commencement des signes en Cana de la Galilée, et il manifesta sa gloire, deuxième fois que le verbe est employé, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël, disait Jean. Maintenant, il manifesta sa gloire, la gloire dont on a déjà entendu parler dans le prologue hymnique, et qui est aussi une anticipation de la manifestation du ressuscité en Jean 21, il manifesta sa gloire, et ils crurent en lui ses disciples. Ah, donc, voilà. Un premier acte de croire en Jésus de ses disciples, de ces hommes qui se sont mis à sa suite. Après ceci, il descendit vers Capharnaüm, lui et sa mère et les frères, et ses disciples, première fois qu'on voit mentionner les frères de Jésus. Voilà. Je pense de plus en plus que ce sont quand même des frères. Quelqu'un comme Daniel Marguerat est cependant convaincu que Jésus avait des frères et des sœurs dont on connaît les noms dans le Nouveau Testament. Personnellement, je suis très prudent là-devant. Je crois que, voilà, malgré tout, il faut sauvegarder... à la personne de Jésus, un caractère tout à fait unique et spécifique. Enfin, voilà, lui et sa mère et les frères. Les frères, à la lumière de Jean 20, c'est plutôt les membres de la communauté, les croyants. Hein, va dire à mes frères. Et ses disciples, et là, ils demeurèrent de nombreux jours. Capharnaüm étant, en quelque sorte... Le point de ralliement, c'est la ville de Pierre, justement. Hein, et il y a une synagogue à Capharnaüm dont on prend archéologiquement grand soin, et puis la maison de Pierre aussi, enfin, c'est le lieu de ralliement. Eh bien, il nous reste encore 10 minutes, au moins, pour brosser rapidement l'épure de ce qui suit immédiatement et que l'on a tout intérêt à bien rattacher à ce qui précède. Le commencement des signes n'est pas encore un événement totalement public. Hein? C'est Jésus, ses époux de la noce. Hein? Il est, quand même, c'est remarquable, ça. Je veux insister là-dessus, n'est-ce pas? Il n'y a aucune... c'est ça, c'est le génie de l'auteur, n'est-ce pas? Alors que si souvent on risque d'occulter... la noce de ses mariés, n'est-ce pas, au nom de l'importance accordée au rapport nuptial entre la mère et Jésus, au contraire, ce lien de l'époux et de l'épouse entre Jésus et la mère est au service de la joie des époux en leur donnant le vin des noces, de leur noce. Hein. Voilà, aucune trace de substitution de Jésus et de l'Église par rapport ni à Israël. Il faut beaucoup d'eau pour qu'il y ait beaucoup de vin. Donc voilà, ni par rapport au judaïsme. Mais c'est quand même encore un événement relativement intime. Dans le Nord, en Galilée, sans transition, parce que je crois qu'il y a vraiment une technique de montage. Hein, les techniques actuelles de montage audiovisuel font comprendre que l'on peut, alors qu'on, ça étonne souvent beaucoup d'exégètes, n'est-ce pas ? Mais sans transition, on passe de Capharnaüm à Jérusalem. Et proche était, alors j'ai regardé dans la nouvelle traduction de la Tob, la Pâque des Juifs, c'est devenu la Pâque juive. Je réagis un peu là-dedans. C'est la Pâque des Juifs, c'est la Pâque des Juifs, quoi. Et il monta vers Jérusalem Jésus parce que, à la fois, on pourrait dire, n'est-ce pas, la Pâque, c'est Jérusalem. C'est une fête de pèlerinage. Hein, les trois grandes fêtes de la Pâque, des semaines, Shavuot et des tentes, ce sont les trois fêtes de pèlerinage. Normalement, on monte à Jérusalem. Pas parce que, essentiellement, Jérusalem est à 760 mètres d'altitude, mais parce que, voilà, on monte à Paris, n'est-ce pas ? Même si vous êtes dans le Nord et que vous devez descendre, voilà, on monte. Hein. Mais c'est tout le sens aussi des psaumes des montées qui accompagnent les pèlerinages au temple. Hein. Voilà. Et puis alors, le mont Sion est quand même une petite colline qui abrite aussi le temple. Il monta vers Jérusalem, Jésus, Hierosolyma, Jésus, les deux noms propres de la ville et de Jésus. Dieu sauve, Jésus, Yéhoshua, Jésus, monte à Jérusalem, la ville du temple, Yerushalayim, la ville de la paix. Symboliquement, c'est très fort. Et il trouva dans le temple, Jérusalem, c'est le temple. Parce que vous arrivez à Jérusalem, vous en avez plein les yeux. C'est-à-dire le temple, il y a une telle ampleur, une telle vastitude, n'est-ce pas, que ça, voilà. Et en effet, pour le judaïsme, on essaie, c'est un terme technique hein, dans le judaïsme, l'alia, on essaye de monter au moins une fois pendant sa vie à Jérusalem, faire son alia, comme on essaye de faire le pèlerinage à la Mecque dans l'islam. C'est pas Jérusalem. Il trouva dans le temple, tout de suite, sans transition, parce que il va, l'auteur va à l'essentiel chaque fois. Qu'est-ce qu'il trouve dans le temple ? Alors là, ça aussi, ça stupéfait. Ça fait partie, c'est une sorte de figure de style permanente, n'est-ce pas ? De contraste. Il trouve dans le temple ceux qui vendent des bœufs et des brebis et des colombes et les échangeurs de monnaie étant assis. Donc, par ordre décroissant, des victimes sacrificielles offertes par les prêtres. Des bœufs, des brebis, des colombes. Colombes, c'est, voilà, on retrouve là, le symbolisme de la colombe. C'est l'offrande des pauvres, comme on le voit d'ailleurs très bien dans l'évangile de Luc pour la scène au temple de Marie, Joseph et Jésus après sa nativité. Et les échangeurs de monnaie. Hein, le caractère lucratif. En même temps, y a certainement un aspect un peu critique, mais c'est un fait que, étant donné l'importance du culte sacrificiel au temple, eh bien, on trouve à la fois ces victimes animales et ceux qui sont chargés précisément de leur vente. Les ayant fait un fouet de cordes, tous il les jeta dehors du temple, il les jeta dehors, c'est une assistance, hein, ainsi que les brebis et les bœufs, et d'échangeurs, il répandit la monnaie et les tables, il les renversa. Le père Grelot appelait ça le coup de force au temple. Ce n'est pas la purification du temple, parce que ce n'est pas le vocabulaire de la purification qui est employé. Curieusement, il était employé pour les noces à Cana de la Galilée. Et je ne l'ai pas assez dit. Enfin, le vocabulaire de la purification tranche par rapport au vocabulaire des noces. Souvent, pour essayer de faire comprendre cela dans le monde chrétien, c'est comme si on conduisait des jeunes mariés au fond baptismaux. Et alors, ici, on pourrait s'attendre à un vocabulaire de purification. Non, c'est pour ça. Ce n'est pas la purification du temple. Coup de force. Oui. Et les auteurs juifs n'ont aucune difficulté pour le caractère historique de l'événement. Jésus procède comme les prophètes. Il y a des textes très forts dans ce sens, tant chez Isaïe, des textes souvent cités, Isaïe 56, 7 et Jérémie 7, la grande critique de Jérémie contre le temple et contre ceux qui disent « Nous avons le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, le temple du Seigneur ». Oui, ben, ceux qui étaient à Silo disaient ça aussi, qu'ils avaient le temple de Silo pour le royaume de Samarie. Allez voir à Silo, il n'y a plus rien. Alors, éviter les tons violents et l'interprétation violente de l'événement. On dit, Jésus s'est révélé au moins une fois violent dans sa vie, en chassant les vendeurs du temple. Eh bien, je ne pense pas que ce soit un acte de violence. C'est un acte d'indignation, de sainte colère, dirait peut-être notre ami Lita Basset. Il n'y a pas de violence là-dedans. Parce que la violence connote toujours le mal. Je crois qu'il faut faire très attention à ça. Personnellement, je n'interprète jamais ni les paroles ni les actes de Jésus dans le sens d'une violence qui pourrait être malicieuse ou destructrice. Non, au contraire. Alors là, il y a une leçon tout à fait remarquable de notre père Saint-Ignace dans les exercices spirituels. Il dit, n'est-ce pas, à ceux qui vendent les colombes, aux pauvres qui vendent les colombes, le pauvre dit, enlevez ces choses d'ici. Ne vous mettez pas à faire de la maison de mon père une maison de trafic. Alors qu'on vous pouvez continuer à rugir, moi je ne rugis pas. Bon. Donc, paradoxe. Jésus, alors de nouveau, je vous ai déjà dit ça, et je le redirai encore à plusieurs reprises, et puis je m'arrêterai, mais Jésus relativise le temple à son corps, ça va être le sens, n'est-ce pas? Il parlait du sanctuaire de son corps au verset 21. Donc, oui, l'incarnation, le verbe chair devenu, l'eau vin devenu, fait que Jésus est vraiment le point, comme verbe fait chair, d'attraction de l'univers créé dans l'histoire, ça c'est sûr. Et cependant, dans l'acte même où il relativise tout à sa personne, il donne au temple son titre de gloire que personne n'a pu jamais lui donner. Ne vous mettez pas à faire de la maison de mon père. Vous voyez le vocabulaire de la maison, de la demeure qui revient, un vocabulaire de temple, du culte. Une maison de trafic. C'est au moins une, j'arrête là. Alors, dans 3 semaines, parce que après la semaine prochaine, il y a les vacances de Toussaint.